Je vous remercie pour vos différentes interventions. Le carnaval de Montpellier, celui que je connais le mieux, enfin celui où j'ai le plus participé, me semble, par rapport aux autres carnavals du Languedoc que vous avez évoqué, le fait qu'il y a peu de catharsis, dans le sens où il y a peu de différence entre la vie quotidienne finalement et le carnaval. Parce qu'actuellement, il y a 4 personnes qui sont incarcérées, qui seront jugées à la fin du mois pour des faits de violence pendant le carnaval, entre autres, il me semble. Et alors que justement, dans les autres carnavals, on est plus sur une image. Et en fait, ma question, c'est entre justement le fait que ce qui est une tradition vivante est en fait souvent en prise avec le réel. Et du coup, par rapport à cette histoire de Pétassou aussi, qu'il était méchant avant, etc., qui peut devenir sympathique. Le paillasse qui était méchant avant et que je trouve plutôt sympathique finalement en participant au paillasse aujourd'hui. Et en fait, une déconnexion finalement petit à petit de... ou peut-être pour moi, c'est un signe d'une perte de vitalité finalement de cette tradition. On en parle du fait qu'elle devient plus sympathique et plus déconnecté en fait de la vie réelle. En fait, le carnaval montpelliérain est vraiment connecté à la vie réelle en fait dans le contexte politique et la violence policière qu'on peut voir tous les jours en France. Et là, elle a lieu aussi ce jour-là finalement. Et du coup, ben voilà, c'est ce que je voulais commenter.
Si je peux répondre. Justement, avec Anaïs, on avait parlé juste un peu avant. Je viens d'arrêter les presses, c'est un peu la raison pour ça. Ça, c'est extrêmement policier. Donc, c'était vraiment, j'étais très, très, très différent de ce que j'ai connu. Bon, j'ai que 47 ans, j'ai pas vécu non plus il y a 2 siècles en arrière. Il y a peut-être 20, 25 ans en arrière. Les choses ont radicalement changé. C'est très différent dans la démarche, dans la manière de procéder. C'était quelque chose qui était beaucoup plus rude et oui, plus violent aussi. Pas violent méchamment, mais violent plus verbalement, plus engagé. Quoi. C'était quelque chose qui s'est perdu.
Oui, je pense quand tu dis policier, c'est au sens de ouais, ça s'est calmé, quoi. Pas au sens du polissage qu'il peut y avoir à Montpellier. Ouais, mais après, carnaval est double, hein, parce que on peut entendre des thèses comme quoi carnaval, c'est quand même un lieu du pouvoir aussi, finalement, hein, où il va y avoir de l'inversion, mais ça va être temporaire, et où il va y avoir une subversion, mais on va dire contrôlée. Il y a beaucoup de carnavals qui ont été gérés par les élites, les dominants, enfin, il y a un peu partout en Europe, quoi, il y a différentes sortes de carnaval, mais cette idée de carnaval réprimé, c'est quelque chose qui est aussi ancien. Donc c'est double. C'est à la fois un moment où on va laisser le peuple s'amuser, les gueux, en l'occurrence à Montpellier. Hein, ça a été appelé le carnaval des gueux par les médias. Et puis au final, les carnavaliers se sont réappropriés ce terme revalorisant cette idée des gueux comme étant, bah oui, les gueux, ce sont justement les précaires, les chômeurs, ce sont les gens qui migrent, qui passent. Ce sont aussi ceux qui vivent de pas grand-chose et qui arrivent à faire du beau avec de la récup. Enfin, voilà, il y a aussi un aspect poétique du gueux. Et donc, ce carnaval des gueux, il est effectivement réprimé parce qu'il est traversé par des mouvements sociaux. Et donc, il y a... carnaval est réprimé par effet, quoi, par ricochet, on va dire. Voilà, parce qu'il est toléré, en fait. Toléré, hein. C'est-à-dire, il n'est pas non plus apprécié par tout le monde. Ça fait du bruit, ça salit. Voilà. Mais même la police peut apprécier carnaval. Nous sommes écoutés. Alors oui, la police aime bien carnaval aussi, puisque on peut voir aussi la police s'entraîner à carnaval. Voilà, intervenir aussi juste parce que c'est carnaval et que du coup, on peut intervenir facilement. Des gens sous, etc. Bon, là, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est différent. Il y a de la casse. Et donc, dès qu'on touche à une vitrine ou à des poubelles, qu'on met un feu, carnaval se retrouve complètement illégitime. Pour répondre rapidement, pour Montpellier, je pense que c'est ça qui fait la beauté aussi la beauté. Qui fait la force du carnaval de Montpellier, c'est qu'il est justement sur cette frontière-là. D'à la fois être dans le sens du carnaval dans le rite. Même s'il n'y a pas de jugement, il y a quand même le feu, il y a donc ces motifs traditionnels qui reviennent. Et en même temps, il y a vraiment une expression politique. Même le fait d'être masqué, de se couvrir le visage dans l'espace public, aujourd'hui c'est quand même interdit. Donc voilà, c'est toléré parce que c'est carnaval, mais c'est aussi politique de dire des choses, de faire des choses en étant complètement masqué. Et voilà. Et quand la police intervient, ben c'est souvent pour défendre les biens, les vitrines, la ville. Mais il y a aussi du politique qui se joue dans l'occupation de l'espace public, l'occupation illégale. Donc il y a des vrais enjeux de autour de la légitimité. C'est pour ça que je faisais une supposition sur la légitimité d'un tel carnaval aujourd'hui en France et dans une ville, quoi.
Ben, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais à Trèves, ça se passe, c'est fait par les habitants, pour les habitants. Il y a une gendarmerie en plus à Trèves qui est d'ailleurs, et parfois le cortège, je crois, passait même par la gendarmerie. On est dans un rite qui fait partie de la vie de la communauté, qui est complètement intégré. Ouais, il y a pas de, comment dire, le rapport au réel, il se joue ailleurs, que ça se joue pas forcément dans le rapport au pouvoir en termes de subversion ou de contestation ou de, ça va être plus, moi je dirais, sur d'autres enjeux, le fait d'aller faire la tournée des fermes depuis quelques années, alors que ça se faisait pas, bon, ça se faisait pas pour des raisons pratico-pratiques aussi, parce qu'aller à pied de ferme en ferme, ça, c'était pas forcément facile, mais là, le fait qu'ils prennent soin d'y aller, c'est une intention et c'est un acte qui est posé comme étant un engagement aussi de leur part d'amener le pétassou dans ces endroits qui ne voient pas passer beaucoup de monde, qui ne voient pas... Je veux dire, les intentions et le rapport au réel, ils se jouent ailleurs. Je ne sais pas bien si c'est... Mais voilà, ouais. Mais en effet, j'ai jamais entendu dire qu'à un moment donné, il y ait eu de conflits directs avec des forces répressives de quelque ordre. Après, le rapport au réel, il se joue dans la fête aussi, dans ce qui va se jouer entre les habitants, bon, à plein de niveaux, quoi. Voilà.
Bonsoir, merci pour vos interventions. Donc j'ai fait le carnaval de Montpellier cette année et je me suis posé une question à la fin. Je me suis dit, quand est-ce que carnaval n'était plus carnaval ? Et qu'est-ce qui fait que carnaval reste carnaval ?
Jusqu'où c'est carnaval ? Bah oui, c'est une très très bonne question, puisque même moi, quand j'y suis, je me demande aussi quand est-ce qu'on y est. De fait, il y a quelque chose qui s'arrête quand on reçoit des gaz lacrymogènes, qu'on se fait taper par la BAC, etc. C'est sûr que on pourrait penser que carnaval s'arrête, et en même temps, ça fait tellement partie de l'histoire de ce carnaval de Montpellier. Ça fait aussi partie de ce qu'est ce carnaval, que finalement, on a pu le voir cette année, il y a déjà eu une première salve de gaz, et en fait, ça a continué encore pendant 2-3 heures. Les gens se sont dispersés et sont revenus. Et c'est difficile de mettre un terme à un rituel qui n'est pas achevé. Notamment le fait de brûler Caramentran, c'est quelque chose qui se fait donc au carnaval de Montpellier. Et il est des années où la police stoppe donc le rituel. Et aussi parce que il y a des poubelles qui ont pris feu très très tôt. Donc de fait, dès qu'il y a des feux qui ne sont pas dans ce rituel, la police intervient aussi. Donc il y a quand même un jeu sur ce qui est carnaval ou pas. Le fait de casser une vitrine ou de mettre le feu à une poubelle n'est pas toléré comme d'autres feux rituels, quoi. Voilà. Donc il y a un sens de carnaval aussi pour, on va dire, pour les autorités. Donc ça fait quand même partie de l'histoire, et donc il peut arriver que des personnes contraintes de rentrer chez elles ressortent après pour brûler leur caramentran très tard parce qu'il faut finir le rituel. Donc on peut trouver parfois 12 personnes sur un parking désert faire un, chanter Adieu Paure avec un petit caramintran parce que une nécessité de finir le carnaval mieux que et vraiment quoi avec avec ce feu rituel et la chanson d'adieu. Donc c'est une question intéressante parce qu'elle est vraiment cruciale dans ce carnaval de Montpellier quoi. D'année en année se pose toujours la question de la fin.
Bonsoir. Donc, comme tout le monde, je vous remercie de vos présentations. Moi, je voudrais revenir sur l'historique du carnaval. Donc, quand est-ce que ça a commencé? Et est-ce que le carnaval, ça doit vraiment être un lieu de revendication sociale ou plutôt un moment d'une sorte d'exorcisme à la fin d'un cycle? J'ai l'impression que dans ces petits villages, c'est un peu ça. C'est un peu la fin de l'hiver, on a envie d'oublier tous ces malheurs et de fêter le retour du printemps. Et il y a aussi cette période pré-carême. Mais alors, est-ce que c'est vraiment... un lieu de revendication sociale où les gens doivent pouvoir s'exprimer et parfois de manière violente. À mon avis, c'est pas du tout ça l'esprit de carnaval. C'est faire la fête ensemble. Effectivement, ça peut être rude parfois, mais dans un espèce de respect et de convivialité quand même. Donc je suis pas convaincu qu'on puisse excuser. Alors c'est peut-être un peu réac hein, comme commentaire, mais je suis pas convaincu qu'on puisse excuser qu'on brûle des voitures, qu'on brûle des poubelles juste parce que c'est carnaval. Enfin, je veux dire, c'est une fête comme une autre, un peu. On se bouscule un petit peu, mais c'est pas un lieu de revendication sociale, je pense. Et là-dessus, ben, je sais pas si vous avez creusé un peu l'historique de tout ça. Moi, j'ai un peu l'exemple des carnavals à Dunkerque, où c'est un mois de carnaval, c'est des... Je vais peut-être dire une bêtise, mais des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et pourtant, il n'y a pas de charge de policiers, il n'y a pas de... Donc voilà, pour moi, carnaval, c'est pas forcément un lieu où on brûle des poubelles. Quoi. Ou un moment où on brûle des poubelles.
Ouais, effectivement, hein. c'est le carnaval de Montpellier est assez particulier. C'est quand même un carnaval, et je pense pas que ce soit excusé en fait le fait qu'il y ait de la casse et tout, puisque justement il y a des gens qui partent en garde à vue, qui sont enfermés. Donc c'est pas du tout excusé, c'est pas toléré du tout. Mais c'est un carnaval qui s'auto-légitime en fait. Donc, de fait, il est interdit. On ne peut pas se regrouper comme ça dans la rue sans autorisation. Et, donc, il y a un respect du sens du carnaval. Et chez les carnavaliers aussi, il y a conflit. Puisqu'il y a effectivement des gens qui viennent faire carnaval avec ce sens du cycle, de la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps, parfois même de nouvelle année, de renouveau total. Il y a des règlements de compte, il y a beaucoup d'amour aussi entre les gens, il y a de la rencontre. Donc, quand je dis il est traversé par des revendications, il est vraiment traversé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cohabitation de plusieurs intentions. Et c'est ça qui fait sa particularité, mais comme d'autres carnavals urbains aujourd'hui. Comme à Marseille, au carnaval de la Plaine, où il y a quand même des associations qui portent, donc c'est un peu différent de Montpellier, il y a quand même des organisateurs un peu officiels, mais le caramintran du carnaval de la Plaine est toujours en lien à une politique de la ville, à un aménagement du territoire, à l'installation de la vidéosurveillance. Enfin, c'est le propos du carnaval est toujours politique à Marseille, par exemple. Donc, carnaval... peut être traversé, oui, par des propos qui sont très contextualisés, alors que aussi carnaval donc est effectivement, je ne vais pas revenir sur l'historique de carnaval parce qu'on n'aura pas le temps, mais de fait, on est dans une ontologie carnavalesque même à Montpellier, avec cette idée du cycle, cette idée de renouveau, je dirais, pour faire vite, voilà.
Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un endroit où tout doit être permis et que c'est pas parce que c'est un peu plus policé, un peu plus lisse. Ouais, mais ça, c'est notre société qui veut ça maintenant. C'est un petit peu plus lisse, effectivement. On ne peut plus faire de chahut comme on faisait il y a 30 ans. Mais je pense que tout ne doit pas être permis juste parce que c'est carnaval. Et c'est dommage que vous ne reveniez pas sur l'historique, parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir comment sont... Enfin, je ne sais pas si on est documenté
mais,
là-dessus.
L'historique, moi, je ne suis pas une spécialiste de carnaval, mais de ce que je crois en savoir un peu, c'est que ça remonte bien loin et que et que c'était au départ des mascarades qui étaient faites plutôt en milieu paysan ou autre. Et donc, il y avait en effet cette idée de clôturer une année, de repartir sur une autre année. Donc, on est l'année qui, dans la Rome antique, s'achevait plutôt au mois de février-mars et recommençait par là. Donc, on est dans ces cycles-là et donc derrière ces pratiques, il y a toute cette idée-là, oui, du cycle qui recommence. Je pense que la question politique, en fait, la question politique, elle vient, je ne sais pas vraiment, elle vient peut-être, si, je pense qu'elle est là depuis longtemps quand même, avec les carnavals tels qu'ils se pratiquaient plus en ville, parce qu'il y avait des groupes, donc des classes aussi sociales qui étaient représentées. Enfin, le rapport aux politiques et au pouvoir, à mon avis, elle a toujours été là, mais elle s'exprimait peut-être sûrement pas de la même manière. Si on entend rapport aux politiques dans les incidents ou la casse, j'imagine qu'il y a toujours eu dans les fêtes des choses qui débordaient de toute manière. Ça, c'est lié aussi à l'état de fête aussi, malgré tout, de débordements divers et variés qu'on peut rencontrer. Mais non, je pense que c'est pas sorti du chapeau comme ça non plus. Enfin, je pense.
Il y a différentes étymologies du mot carnaval. Il y a effectivement cette étymologie-là. C'est religieux, oui. Mais Claude Gagnebé, par exemple, disait qu'effectivement, il s'agissait d'une religion, mais on est là à faire référence à des religions païennes, anciennes. Hein. Donc, comme tu disais, tu parlais de la Rome antique, etc. Donc, il y a quelque chose de très très ancien dans le carnaval, et effectivement après il y a comment l'Église a interdit ou a au contraire s'est approprié des rites pour l'Église romaine, quoi, pour s'installer un peu partout. Oui, le carnaval est lié à la religion. Évidemment.
Oui, et puis à des croyances très anciennes. On pourrait faire le lien avec ces changements de cycle aussi, avec cette idée de l'ours, du réveil de l'ours. Il y a tout un tas de choses aussi dont on pourrait parler. J'aimerais passer le micro à Pierre Laurence, qui pourra aussi peut-être intervenir sur cette question. J'aimerais bien l'entendre.
Je sais pas pourquoi moi, hein, je n'ai pas plus légitimité. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la personne à ma droite. Là. Moi, il me semble que le carnaval, c'est à la fois le lieu de, comment dire, un lieu d'exploration des limites collectives et individuelles. Comme on dit, il y a un âge où on rentre dans le carnaval, enfant ou un peu plus grand, où on vit des choses. Où en avançant un âge, on trouve une autre place. Enfin, je parle peut-être de carnaval traditionnel. Et c'est dans cette exploration des limites où effectivement le politique n'était pas forcément obligatoire et pas été toujours là. Hein. Je pense qu'il est de plus en plus revendiqué depuis une certaine renaissance du carnaval dans les années 70, où on a pris conscience de la puissance de ce rite, etc. Mais il était récurrent, le politique, mais il n'était pas obligatoire. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça faisait partie dans ces expériences collectives. À un moment donné, il y avait un besoin collectif de contestation d'un pouvoir, de renversement d'une norme, mais c'était pas systématique, quoi. Mais dire qu'il était absent, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, quand on regarde le carnaval de Dunkerque, il suffit d'avoir vu les vidéos qu'il y avait cette année sur toutes les chaînes où Ségolène Royal se faisait crier à poil, à poil, à poil. Voilà. Ben oui, c'est voilà. C'est aussi une forme de revendication politique. Il y a quelqu'un qui est quand même ministre qui se fait voir au balcon et on lui crie à poil, à poil. Bon, elle a très bien joué le jeu en disant qu'elle s'était régalée, mais voilà. Parce qu'elle a de la bouteille et que c'est se placer. Bon. Après, c'est vrai que le carnaval, je suis assez d'accord avec toi, Anaïs, était souvent très normatif quand même. C'est-à-dire qu'il y a un renversement des normes et après, tout rentre dans les normes, quoi, je veux dire. Donc il y a cette espèce de tentative. On explore la limite, mais est-ce qu'on va au-delà ou pas, et Il y a toujours cette question-là. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Je ne sais pas.
En tout cas, on dire ça ne peut pas être dans le carnaval, c'est quelque part, c'est un peu un contresens, puisque de fait, à carnaval, il se passe ça, et personne ne pourra dire « Non, ça, c'est pas carnaval !» Je vois personne dire à Montpellier « Bon, non, alors ça, c'est pas carnaval, hein, alors tu rentres chez toi !» Parce que c'est carnaval, donc de fait, il se passe ça, et les gens le subissent plus ou moins, mais voilà, c'est carnaval. Donc, il y a personne à Montpellier qui dira ce qui est carnaval ou pas. Il y en a qui vont le dire, mais personne ne sera obligé de les écouter.
Tu veux reprendre ou... Parce que là, il y avait une question aussi. On reprendra après.
J'ai pas entendu. Hein, donc. Moi, je voulais dire aussi qu'il y a des carnavals, des carnavals qui sont à la fois violents et policés. Enfin, moi, j'ai connu ça en Suisse. J'ai été au moins deux ou trois fois au carnaval de Bâle, et les premiers jours du carnaval de Bâle, c'est tellement violent, simplement avec les oranges qui sont lancées, que les gens ouvrent leurs fenêtres, mettent du plastique derrière, et en bon Suisse font leur marmelade après, avec ce qu'ils récupèrent d'oranges, et les banques mettent des plaques sur leurs vitrines. Donc voilà, c'est très organisé, quoi. Bon, ça c'est une chose. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais demander aussi, c'est deux choses. Enfin, d'abord pour Pézenas, j'ai en mémoire le film de Mnouchkine sur Molière, où on voit des scènes de carnaval. Je ne sais pas si tu connais, enfin bon. Et simplement, donc c'est vraiment une vieille tradition. Je ne sais pas de quand ça date, mais ça doit être très ancien. Et autre chose aussi, j'ai pas compris ce qu'était vraiment, enfin, ou ce que ça voulait dire les ganelles. J'ai pas bien entendu. Il y a un moment où j'ai décroché, peut-être.
C'est ceux qui regardent derrière la fenêtre, un peu en coin là.
D'accord.
Qui épient.
D'accord. Voilà. C'est étymologiquement, c'est ça.
Oui, c'est le sens du mot, quoi.
Ouais, d'accord. Ok. Ben merci en tout cas à tous.
Je veux dire, il y a quelque chose qui est dit et redit là. C'est le carnaval, c'est ancien, etc. De quand ça remonte, etc. Je crois que c'est une des ruses du carnaval, ça, de ces rituels, c'est-à-dire de nous interroger sur leur ancienneté, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors que le carnaval, c'est fondamentalement contemporain. Qu'est-ce qui se vit entre les gens, qu'est-ce qui se joue entre les gens, etc. Donc c'est par le biais de cette ruse aussi, que de ce masque, quoi. C'est tout plein de masques, quoi, carnaval. Et ça, c'en est un, quoi. La ruse de dire, de suggérer que c'est ancien, où on se raconte des histoires, parce que aussi, c'est un rite collectif où on se fonde au Payas ou à Pézenas, vous l'avez bien dit, où il y a une légende d'origine, etc. Et c'est une manière de se raconter une histoire, quoi, carnaval.
Oui, c'était pour revenir sur les Payas. Justement, ce que disait Pierre, c'est voir les limites de l'individu et du collectif. Et du coup, toi, où est-ce que tu vois les limites des Kurnalenques pendant Payas? Et qu'est-ce qui t'a vraiment... Enfin, pour voilà, parler de ça, là, des limites et des Payas aujourd'hui...
Les limites,
quelles limites ont changé, justement?
Voilà, justement, tu as parlé de Kurnalenque. Effectivement, le Kurnalenque, pour résumer, c'est celui qui est plus courant terralé que courant terralé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là depuis X générations en courant terral, depuis au moins 3, 4, voire plus. C'est vrai que depuis 20 ans, courant terral, ça a beaucoup changé. À l'époque, on dirait, il y avait 3000 habitants. Il y avait plus d'une bonne moitié qui était vraiment de courant terral, comme ça. Tout le monde se connaissait, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 habitants. Les Kurnalenques tels quels, ils sont peut-être 150, 200, 250, pas vraiment plus. Donc c'est vrai que dans les Payas, ça menait un abord très différent, ça a changé énormément de choses. Hein. Les Payas maintenant, c'est un carnaval qui est vivant, donc qui est vivant aussi, qui évolue. Ça n'a peut-être pas pris une évolution actuelle qui me va à moi, peut-être, comme ça aussi. C'est vrai qu'il y avait ce sens de village qui a été très perdu, qu'on trouvait beaucoup dans les Payas. Parce qu'effectivement, même si on était masqué, tout le monde se connaissait. Les limites, elles étaient repoussées très, 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 très loin, justement. Aujourd'hui, personne ne se connaît. Ou voilà, les limites, non, elles sont très... Ça, quand je dis que c'est policé, c'est que, voilà, c'est... voilà, bon, c'est...
Du coup, je vais parler de mon histoire. Bon, aussi, ouais, moi, je suis Pignanais, donc c'est le village adverse pour faire un peu le parallèle. C'est aussi dans la métropole de Montpellier. Et c'est un village qui a aussi beaucoup changé par les mêmes, ce qui s'est passé dans toute la métropole de Montpellier, quoi. Qui était avant l'agglo, comme quoi tout change aussi. Et du coup, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait paillasse à Cournon fait qu'il peut y avoir encore village. S'il n'y avait pas paillasse, ça serait vraiment, ça serait pignon, quoi. Ça serait horrible.
C'est un peu une petite résistance, on va dire. C'est un peu d'identité qui reste. Comme ça, qu'on essaie un peu de perpétuer, enfin, que les jeunes maintenant vont continuer à essayer de perpétuer, c'est une identité qu'ils vont se donner avec ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas une identité qu'ils n'ont pas en tant que Cournalenc, mais qu'ils auront en tant que courant terre par rapport au paillasse. Hein. Oui, c'est un peu ça. Ouais.
Et depuis les années 80, je pense que Montpellier a triplé de taille, donc j'imagine que le carnaval aussi de Montpellier a changé. Et du coup, par rapport à Pézenas, où est-ce que ça en est par rapport à... Est-ce qu'il y a le même phénomène démographique aussi, et beaucoup de nouveaux arrivants, et comment le carnaval de Pézenas peut s'en enrichir, ou s'en enrichit, ou...
Oui, je pense que Pézenas rencontre les mêmes problématiques. C'est si ce n'est que je ne sens pas de, je sens pas le péril au niveau du carnaval de Pézenas. Après, il y a beaucoup de choses qui évoluent forcément. Hein, cette année, il n'y a eu qu'une seule soirée des spectacles des matchs ou à la place de deux. On se rend compte que la danse du soufflé, il y en a de moins en moins qui la connaissent. Hein, que chanter occitan, c'est compliqué. Enfin voilà, tout ça, c'est des réalités. Enfin voilà, il me semble que c'est des réalités. Après, voilà, pour y être de l'intérieur, je trouve que ça, il y a toujours une vitalité, une créativité. Il y a en tous les cas toujours une façon d'aller au-delà, quoi. D'aller au-delà de la problématique qui est posée. Bon, voilà, cette année, le Poulain a dû changer son parcours, un parcours rituel dans les rues de la ville qui a dû changer par rapport à l'état d'urgence, parce qu'il y avait des rues qui ne pouvaient pas être utilisées. Bon, les carnavaliers s'en sont emparés, on a fait beaucoup plus de petites rues, donc les gens étaient beaucoup plus quichés, donc on a retrouvé des choses qu'on avait un peu perdues du fait d'être dans des grandes avenues. Bon voilà, après le danger, il y est, c'est évident, c'est fragile, mais je crois que, voilà, tout ça, c'est ce que disait aussi Anaïs, quoi, c'est des cycles, et... Voilà. Après, à Pézenas, c'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail qui est fait, qu'il y a un gros travail qui a été fait depuis 10, 15, 20 ans sur la question de la transmission, sur la question de la restauration des traditions, et que je crois que ça compte parce que aujourd'hui, qu'on soit de Pézenas ou qu'on soit pas, on sait quand même ce qu'est le Poulain, où est-ce qu'il habite et qu'est-ce qu'on fait quand il sort, quoi. Voilà.
Là-dessus, oui, enfin, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est les gens qui font les carnavals. Ceux qui baladent de carnaval en carnaval et qui font un énorme carnaval, quoi, géant. Moi, j'ai jamais fait ça, mais je trouve que c'est assez fascinant, quoi, enfin, de se mettre dans cette ambiance pour soi, enfin, en bande. Je ne sais pas exactement, parce qu'on a parlé des bandes dans les villages, mais je pense qu'il y a aussi des... Enfin, c'est sûr, même, il y a des groupes qui se réunissent, qui sont de plusieurs villages, je pense, carnavalesques, et qui vont faire les carnavals des uns et des autres, et échanger comme ça.
Oui, il y a une communauté carnavalesque très très forte, en tout cas en Occitanie, mais il y a aussi des passerelles avec Dunkerque, avec Douarnenez, les grades Douarnenez, etc. Mais ici, il y a le CACA, le collectif anonyme du carnaval ambulant, qui s'amuse à faire un carnaval par jour aussi, rien qu'autour de Montpellier. Mais en ce qui concerne les carnavals urbains, depuis les années 90, les carnavals indépendants de Nice, par exemple, et le carnaval de Montpellier échangent des musiciens.
Et ça, c'est depuis le début. Ça fait 20 ans que les musiciens de Montpellier vont à Nice, les musiciens de Nice vont à Montpellier, en passant par Arles aussi, où il y a un tout petit carnaval et des petits charivaris, ça dépend des années. Et puis, il y a les musiciens de Saint-Rémy-de-Provence qui viennent à Cournonterral. Les Cournonterralais vont à Saint-Rémy. Donc, il y a tout ce réseau de carnaval qui existe depuis les années 70 et qui s'est enrichi avec les carnavals urbains depuis les années 90. Et donc, effectivement, on peut retrouver les mêmes musiciens, des têtes. Et les gens se reconnaissent d'année en année et se connaissent, pour le coup, en tant que membres de la grande internationale carnavalesque.
Bonjour, merci pour vos interventions. Tout à l'heure, l'un d'entre vous a parlé d'une organisation territoriale qui coordonnait les carnavals. Alors moi, je sais qu'il existe de mon côté une fédération départementale des communes carnavalières qui, chaque année d'ailleurs, organise un événement dans une des communes différentes de l'ensemble des adhérents. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur cette organisation de l'un d'entre vous à parler ?
C'est pas directement sur le carnaval. Il y a un projet qui est en train de se monter autour d'une fédération des animaux totémiques. Donc sur le territoire Occitanie. Effectivement, les animaux totémiques sont très souvent associés aux fêtes de carnaval, mais pas que. Donc c'est un projet qui est en cours d'élaboration avec un rassemblement qui aura lieu les 1 et 2 juillet à Pézenas dans l'Hérault, donc avec entre 40 et 50 totems géants ou dragons d'Occitanie ou d'Europe, voilà, qui seront représentés. Après, je ne sais pas trop la question que vous avez à...
Qui est l'organisateur de cette...
En fait, c'est pour l'instant personne. C'est justement un processus un peu différent qu'on essaye de mettre en place. Disons que ce qu'on essaye de faire d'abord, c'est de se poser la question, de se dire voilà, qu'est-ce que c'est que ces totems pour nous, enfin pour les acteurs ou pour le phénomène totémique, enfin quels sont ces acteurs du phénomène totémique et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ensemble. Donc en fait, pour l'instant, on organise des réunions de travail où on essaye un peu de déblayer le terrain pour voir un peu quels sont nos objectifs, quelles sont les missions qu'on se donne, qu'est-ce qui fait bien commun en fait, est-ce que ces totems font bien commun pour nous, quels sont les droits culturels qu'on a envie de défendre à travers ces pratiques. Et pour l'instant, on n'a pas envie de se dire notre objectif, c'est celui-là, mais plus envie de se dire, OK, on a envie de faire aventure commune, de construire cette aventure commune, et ensuite de voir la forme structurelle que ça prendra, si ça prend une forme. Voilà.